With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 milieux sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ces dernières semaines, la question de l'urgence climatique a, dans son traitement médiatique en France, pris une tournure assez désagréable. La venue de la militante suédoise Greta Thunberg à l'Assemblée a donné lieu à une séquence peu glorieuse sur l'air de « Mais qui c'est cette gamine qui vient nous faire la leçon ?» chansonnette reprise à l'envi sur les réseaux sociaux où les discussions sur l'environnement et l'avenir de la planète sont plus que jamais polarisées et donc plutôt stériles. À notre petite échelle, on a tenté plusieurs fois cette saison d'aborder le sujet de la crise écologique, de trouver des angles pour tenter d'appréhender ce défi inédit et très angoissant. Assez logiquement, on a donc choisi, dans la droite suite de notre entreprise estivale de retour sur les thématiques qui nous sont chères, de consacrer au climat notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Notre guide pour repasser en revue les questions qui nous ont heurtées cette année, c'est Lola Valégeau. Elle est directrice du programme Climat au sein de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, un think tank créé il y a une quinzaine d'années. En allant la voir, j'avais en tête l'un de nos tout premiers épisodes qu'on avait justement consacré à la question climatique et à la mobilisation des youtubeurs. Notre invité, c'était l'activiste Elliot Lepers, et il avait fait au cours de notre discussion ce constat auquel je repense souvent.
Moi, je pense que l'écologie nous met quand même systématiquement dans une situation d'échec, globalement, tel qu'on perçoit le discours majoritaire sur l'écologie. Parce qu'en finalement, ça nous montre un mode de vie que personne ne sait comment atteindre, sauf une frange très, très engagée, très, très volontaire, végane, qui ne prend plus l'avion et qui arrive à effectivement cocher toutes les cases. Mais sinon... Et notamment si on a moins de moyens, si on a moins de revenus, si on a moins le choix de notre mode de vie vis-à-vis de notre travail, etc. En fait, ce qu'on nous raconte comme idéal écologique est quasiment inatteignable. Donc ça veut dire deux choses, ça veut dire qu'il faut qu'on redéfinisse qu'est-ce que c'est que l'écologie pour que chacun puisse se sentir inclus et chacun puisse se sentir en situation de succès vis-à-vis de ça. Et puis derrière, ça veut dire aussi qu'on montre que c'est aussi fait pour les gens qui échouent et qu'il y a aussi de la place pour les gens qui n'arrivent pas à faire 100% de ce qu'on leur propose.
Ce constat d'échec, quand on est journaliste, on le fait surtout lorsqu'on se rend compte que c'est dur d'intéresser le grand public aux sujets environnementaux. Alors pour démarrer notre conversation, j'ai demandé à Lola Valégeau pourquoi on avait encore autant de mal à parler tout bêtement de l'urgence climatique.
C'est normal d'avoir un petit peu de difficulté à appréhender la question climatique dans son ensemble, parce que elle désarme un petit peu. Mmh. En fait, maintenant, pour faire face à la menace du changement climatique, il ne faut pas seulement penser à une ou deux mesures, mais il faut penser à changer la façon dont on produit, dont on consomme et un peu la façon dont on vit dans tous les domaines de notre vie de tous les jours. Ça veut dire repenser la façon dont on se déplace, la façon dont on produit de l'énergie, dont on produit des biens de consommation, la façon dont on les consomme, et la façon dont on se loge, dont on s'habille. Il y a vraiment énormément de choses à repenser si on veut avoir une chance d'être à la hauteur du défi. Et le défi, il est aussi en train de se préciser à mesure que la science fait des progrès. Et en fait, on on se rend compte qu'il faut vraiment repenser complètement notre économie pour être en accord avec ce que nous suggèrent de faire les scientifiques pour limiter le réchauffement et éviter les effets les plus catastrophiques.
Moi, la sensation que j'avais en voyant ces sujets d'un point de vue de journaliste et puis de citoyen, tout simplement, c'est qu'on passe peu à peu d'une réflexion où on a beaucoup vu les choses d'un point de vue individuel en disant, voilà, il faut trier ses déchets, il faut faire des choses chacun à sa petite échelle, et qu'on, de plus en plus, on commence à voir les choses de manière plus systémique.
Oui, c'est vrai, je pense que les premiers... Quelque part, la façon dont les citoyens ont été sensibilisés aux questions environnementales, ça a commencé peut-être par la question des éco-gestes. Je recycle, je ferme mon robinet quand je me brosse les dents. En fait, là, l'urgence climatique, et on peut vraiment parler d'urgence parce que de nombreux parlements, de nombreuses villes, notamment Paris, notamment la France, ont déclaré l'urgence climatique. Elle impose des changements beaucoup plus systémiques. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces changements systémiques ? Parce que ça a l'air un petit peu abstrait, dit comme ça. Pour faire clair, il faut que dans une échelle de temps pas si éloignée, c'est-à-dire 30 ans, c'est-à-dire un ou deux cycles d'investissement quand on a une entreprise, c'est-à-dire voilà, la vie adulte pour les jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, par exemple, il faut qu'on arrive à réduire drastiquement nos émissions. Pas tout à fait à émettre zéro gaz à effet de serre, mais en tout cas à les réduire énormément pour que les quelques petites quantités de gaz à effet de serre qu'on n'arrive pas à réduire complètement à zéro, on arrive à les compenser mécaniquement par ce qu'on appelle le stockage de carbone, soit par des moyens naturels, en utilisant des puits de carbone naturels que peuvent être les forêts, les sols, soit en utilisant des technologies qu'on appelle des technologies de capture et de stockage du carbone.
Si on prend les choses de manière concrète, des tas de secteurs de nos vies individuelles et collectives sont à repenser. Prenons l'exemple des transports. Se déplacer aujourd'hui, sur une petite comme sur une grande distance, c'est devenu une question écologique et donc une question politique. Récemment, par exemple, des députés ont tenté de faire passer un amendement visant à interdire les liaisons aériennes en France lorsque le trajet est réalisable en train en moins de 5 heures. Il était notamment porté, cet amendement, par François Ruffin de la France Insoumise.
La philosophie générale, c'est que l'avion doit être un transport d'exception et que la norme, notamment en intérieur, c'est le train.
On a d'ailleurs consacré cette année un épisode à cet étonnant député qui est François Ruffin, mais c'est un autre sujet. Pour ce qui est du climat et des transports, outre cet amendement qui a finalement été retoqué, j'ai demandé à Lola Vallejo ce qu'on pouvait mettre en œuvre pour s'approcher de la neutralité carbone à laquelle aspirent de nombreux pays.
Alors c'est une très bonne question. Pour faire clair, pour limiter le réchauffement climatique, la première des priorités, c'est d'arriver à arrêter d'utiliser tous les combustibles fossiles. Les combustibles fossiles, c'est le charbon, le gaz et le pétrole. Le pétrole, c'est ce qui donne de l'énergie à la quasi-totalité de nos moyens de transport, en particulier tous les transports routiers. Qu'est-ce que ça veut dire ? On doit agir à plusieurs échelles. D'abord, la meilleure façon de ne pas utiliser des combustibles fossiles, c'est d'arriver à maîtriser l'augmentation de la demande de transport. Ça veut dire se déplacer moins ou se déplacer mieux, soit en utilisant moins de véhicules, par exemple quand je suis un particulier, soit faire du télétravail, travailler depuis chez moi, soit faire du covoiturage, soit utiliser les transports en commun. Ça, c'est la base. Quand on est aussi en train de transporter des marchandises, ça veut dire essayer d'utiliser moins de camions, mais de mettre plus de marchandises sur du rail ou d'arriver à améliorer l'efficacité de tous ces moyens de transport. Donc il faut à la fois agir sur la réduction de la demande de mobilité, arriver à la maîtriser, arriver à décarboner, c'est-à-dire à réduire le contenu fossile de nos transports existants, et puis aussi changer de technologie, changer de mode de transport pour, par exemple, développer les mobilités douces quand c'est des petites distances, la marche, le vélo, et des mobilités moins carbonées comme le train par rapport à la route ou le train par rapport à l'avion.
Justement, sur la question de l'avion, j'ai l'impression que c'est un cap qui est difficile à franchir intellectuellement. J'ai pris le métro pour venir, il y avait encore des affiches gigantesques qui vendaient des séjours dans les Antilles à moins de 150 euros. Je sais que certains pays du Nord, notamment en Suède, il y a des concepts un peu plus avancés, notamment il n'y a pas de traduction encore, c'est le flyscam, je crois, donc c'est l'avionte. Certains ont proposé l'avionte comme traduction. Donc c'est le fait de socialement percevoir de manière beaucoup plus négative le fait d'utiliser l'avion aide à justement sortir de ce modèle du transport par avion? On n'en est pas encore là, en tout cas pour le côté francophone.
La question de l'aviation, elle est très intéressante parce qu'au niveau mondial, l'aviation, ce que disent souvent les compagnies ou la façon dont elles se défendent, c'est on représente finalement une petite partie des émissions au niveau mondial. En fait, l'aviation, c'est surtout emblématique pour plusieurs raisons. Parce que c'est un secteur en très forte croissance, et c'est aussi un secteur qui, finalement, n'est pas égalitaire. Il y a une très petite proportion de gens au niveau mondial, et aussi dans les pays développés même, qui prend l'avion régulièrement. Il y a une question de culture qui est, si on veut stopper ou limiter la croissance de l'aviation, ça pose des questions culturelles qui sont effectivement très intéressantes. Qu'est-ce que ça veut dire d'arriver à limiter la croissance de l'aviation? Ça veut dire accepter de prendre le train, peut-être d'aller moins loin, de réinventer quelque part l'imaginaire de qu'est-ce que c'est que des vacances excitantes, exotiques. Et ça, c'est une question culturelle qui est très intéressante. Il y a beaucoup de réinventions finalement autour de notre culture et de nos valeurs qui fait partie des solutions à envisager. Mais il y a aussi beaucoup de solutions beaucoup plus pragmatiques qui font qu'on arrive à proposer des vols à 100 euros pour aller aux Antilles. En fait, il y a une inégalité de fait pour l'aviation qui est vraiment très injuste quand on considère l'impact de ce mode de transport par rapport à d'autres modes comme l'avion, par exemple, par rapport au train, pardon. D'abord, le kérosène qui est utilisé dans les avions, c'est un type de combustible qui n'est pas soumis à des taxes. Il y a une sorte de convention internationale par lesquelles les pays ne proposent pas ou très peu de taxes. Quelques pays, comme le Brésil par exemple, ont des taxes sur le kérosène, mais ce n'est vraiment pas généralisé. Et c'est souvent à des niveaux trop bas pour permettre d'avoir un effet incitatif et d'empêcher le développement de l'aviation.
L'un des enjeux majeurs pour limiter notre impact sur la planète, ce sont nos modes de consommation. Par exemple, ce qu'il se passe dans nos assiettes où l'industrie extrêmement polluante a encore une place importante. C'est notamment vrai lorsqu'on s'intéresse au cas de la viande. On en a parlé tout récemment dans un épisode en évoquant le coût de la viande avec l'économiste Nicolas Treich.
Il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui concernent l'impact écologique de la production et la consommation de viande et on peut dire que cet impact est massif. Aujourd'hui, il y a une étude publiée l'année dernière dans Science par Godfrey, un chercheur d'Oxford et ses co-auteurs, qui fait le point un petit peu sur les impacts écologiques et sanitaires de la viande. Le tableau est assez noir. En fait, on voit que la viande pollue dans différentes dimensions. Elle a un impact considérable, par exemple, sur la biodiversité aussi. On dit que c'est la première cause de perte de biodiversité dans le monde. Par exemple, plus de 85% aujourd'hui de la destruction de la forêt amazonienne est attribuée à la viande, avec les pâturages et la production de céréales pour nourrir le bétail. Donc la viande contribue à la pollution globale avec la perte de biodiversité et le changement climatique et contribue aussi à la pollution locale. Elle pollue nos rivières avec les questions d'émissions d'azote, elle pollue l'air avec les émissions d'ammoniac, elle affecte le sol, etc.
Pour le coup, de plus en plus d'études pointent une baisse en France et plus largement en Europe de la consommation de viande. J'ai donc demandé à Lola Vallejo si un virage, certes lent, n'était pas en train de s'opérer.
C'est vrai que la consommation de viande et la production, surtout la production industrielle de viande qu'on peut voir actuellement, elle est très mauvaise sur le plan écologique, mais elle a aussi des impacts sur la santé humaine, sur des questions de pollution locale. Bon, je ne vais pas reprendre tout ça, vous en avez peut-être déjà parlé dans d'anciennes émissions.
Oui, effectivement, d'ailleurs, on vous invite à le réécouter cet épisode, il est facile à trouver, il s'appelle « Ce que nous coûte la viande ».
En fait, ce qui est intéressant, c'est que le virage de la baisse de consommation de viande qu'on voit actuellement, elle est multifactorielle. C'est pas uniquement pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, c'est aussi pour des raisons de qualité de l'alimentation et des raisons de santé publique. Mais on voit déjà que beaucoup de citoyens sont en train de décroître leur part de viande dans l'alimentation. Ça, c'est une tendance très intéressante, mais c'est vrai qu'on sait que pour tenir les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on mange encore beaucoup trop, on mange beaucoup trop gras, on mange beaucoup trop sucré et on mange trop de protéines animales. Et il faut beaucoup plus de protéines végétales et de légumes et de fruits dans notre alimentation. les bénéfices de cette nouvelle alimentation, ils seraient vraiment très intéressants, non seulement sur le point de vue de la santé humaine, sur le point de vue des émissions de gaz à effet de serre, donc point de vue du climat, mais aussi surtout en termes de biodiversité. Mmh. Parce que quand on parle de climat, on a tendance à avoir un petit peu des œillères et à manquer de regarder tous les enjeux dans leur ensemble. On est aussi au milieu d'une sixième extinction de masse de la biodiversité qui atteint vraiment des proportions très alarmantes en Europe et aussi en France. On a réussi à montrer qu'on pouvait nourrir l'Europe à partir de cette production basée sur une agriculture écologique qui suffirait à nourrir l'ensemble de la population européenne tout en gardant une capacité d'exportation de produits à forte valeur ajoutée, comme le vin, mais aussi de blé.
Ce changement, ce renversement de modèle de production, en tout cas de production agricole et de production d'élevage, il demande un accompagnement en termes de politique publique, j'imagine. Quelles possibilités, quelles pistes sont à l'étude du côté de l'Europe ou du côté de la France pour justement accompagner ce changement-là ?
Alors, c'est vrai que les agriculteurs répondent aussi aux injonctions que leur donnent les politiques publiques. Elles sont beaucoup structurées à l'échelle européenne avec la politique agricole commune qui est en train justement d'être révisée. Ça veut dire changer complètement les incitations qu'on donne aux agriculteurs. Arrêter de donner des subventions pour une augmentation très forte des rendements, mais finalement les inciter à nouveau à maintenir des parts de leurs exploitations dédiées à des prairies, à ce qu'on appelle des prairies permanentes, permettre finalement à la nature et aux espèces sauvages de reprendre un peu leurs droits, ce qui est très bien pour la biodiversité, et quelque part refavoriser le bio et la place du bio dans la production des agriculteurs européens.
Outre le fait de comment on produit, il y a aussi la question de ce qu'on produit. Je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on plante, tout simplement. Quel type de culture on favorise et quel type de culture seraient les plus adaptées aux changements climatiques qui, de toute façon, nous attendent.
Alors, il y a effectivement plusieurs choses. Si on regarde, par exemple, le cas de la France, on a des objectifs d'accroître la plantation de légumineuses, c'est-à-dire tout ce qui sont légumes secs, qui sont très intéressants du point de vue du stockage de l'azote dans le sol et qui sont très bons pour les sols. Et on est vraiment très en deçà des objectifs qu'on se fixe actuellement. Pourquoi ces légumes-là sont intéressants ? Non seulement parce qu'ils ont des bénéfices en termes climatiques et en termes de santé publique, mais aussi plus largement, un des aspects importants, ça va être de regarder quelle agriculture va nous permettre de faire face aux impacts du changement climatique qu'on va voir arriver de façon irréversible. Aujourd'hui, le changement climatique, il est déjà là. On est déjà dans un monde où on est en moyenne à plus de 1 degré par rapport aux températures de l'ère pré-industrielle de 1850. On sait qu'avec les émissions qu'on a déjà injectées dans l'atmosphère, même si on fait des efforts drastiques à partir de maintenant, on va vers un monde à 1,5 degré, dans le meilleur des cas. Et potentiellement à plus si on n'arrive pas à réduire les émissions. Donc, les impacts du changement climatique, ils vont questionner, encore une fois, qu'est-ce qu'on plante ? Quels sont les besoins en eau des plantes ? Le changement climatique va impacter l'hydrologie et la fréquence et la sévérité des pluies. Donc on a besoin d'intégrer cette composante-là quand on réfléchit aux productions qu'on a actuellement.
Une façon très simple, finalement, de rendre visible dans l'espace public l'urgence climatique, c'est de passer par la mobilisation. C'est ce qui, de plus en plus, se produit. On a notamment eu l'occasion d'en parler dans Programme B lorsqu'on s'est intéressé aux grèves des jeunes qui se multiplient en Europe sous l'impulsion de Greta Thunberg, dont je parlais tout à l'heure. Juliette Loiseau avait suivi pour nous à Paris ses élèves qui, le vendredi, séchaient les cours pour alerter sur la crise écologique à l'œuvre.
J'ai vu les interviews d'elle, ça m'a un peu alerté. Ça m'intéressait déjà tout le réchauffement climatique et tout, depuis je pense septembre, mais ouais, ça nous a beaucoup mobilisés, je pense, quand il y a eu la COP, où elle était là, ouais. Elle a fait un discours assez poignant.
Mais surtout qu'individuellement, on a l'impression qu'on peut rien faire. Donc quand le mouvement il a commencé à prendre dans les autres pays, ouais, que là on a vu qu'il y avait des manifs, et on s'est dit « Ah, mais c'est peut-être que ça peut un peu changer, donc on y va maintenant. »
Et c'est vraiment parce qu'on se ressemble que bah, directement on se sent concerné.
On s'identifie un peu, ouais.
Et puis aussi, c'est quand même... Enfin, c'est fou, je trouve, parce qu'à 16 ans, moi, je suis pas du tout... Enfin,
concernée comme ça.
Je m'implique pas, etc. Donc, ça donne envie. Et vos parents, ils réagissent comment?
Oui, ils me soutiennent. Enfin, là, par exemple, cet après-midi, ils voulaient pas que je sèche les cours parce que j'avais un contrôle et tout. Mais la dernière fois, vendredi dernier, je leur avais pas dit que j'allais sécher les cours. Ils l'ont appris et ils m'ont dit, t'aurais pu nous en parler, mais enfin, c'est bien que tu sois impliqué parce que je ne fais pas ça pour sécher les cours. Je fais ça vraiment pour une raison. Le 15 mars, je sais que j'irai à la manif, ils sont d'accord.
Et toi? Ils m'ont dit, t'es des cours pour des manifs, ça en vaut pas la peine, même si c'est pour le climat. Enfin, t'as un avenir quand même, mais enfin, moi je trouve ça un peu inutile parce que l'avenir il est plus important pour la planète.
Ben surtout, enfin, à quoi ça sert d'étudier?
Oui.
D'étudier si on n'est même pas sûr d'avoir un métier plus tard ou...
Voilà, c'est pour ça que je peux pas sécher cet après-midi. C'est vraiment engueulé quoi. Ils ont dit non, mais déjà tu sèches le 15 mars, alors tu vas pas sécher tous les vendredis.
Ce que ces mouvements qui émergent nous disent, c'est également que notre génération, celle des jeunes adultes nés entre la fin des années 80 et les années 90 en gros, et la suivante, les lycéens et étudiants d'aujourd'hui, découvrent de manière très empirique le combat pour l'environnement sans avoir été particulièrement sensibilisés, par exemple, lors de leurs études. J'ai donc demandé à Lola Vallejo s'il n'y avait pas là quelque chose à imaginer, une éducation climatique, comme il existe déjà une éducation civique.
Alors effectivement, c'est... extrêmement important que les jeunes générations soient informées non seulement du concept du changement climatique, des impacts, mais aussi des solutions qui existent. Parce que quelle que soit la formation que vous suivez, qu'elle soit professionnelle ou des études supérieures, et quelles que soient les études supérieures que vous faites, en fait, le changement climatique va avoir un impact durant le cours de votre carrière sur le métier que vous allez choisir. De ce point de vue-là, c'est très important... D'abord, d'avoir une sensibilisation dans les petites classes, au collège, pour que tous les élèves aient les bases, entre guillemets. Mais c'est aussi important d'avoir des modules qui soient adaptés aux études que choisissent les jeunes, pour qu'eux puissent intégrer le changement climatique dans la façon dont ils vont faire leur métier. Mmh. C'est-à-dire que qu'on fasse une école de commerce ou une école d'ingénieur ou médecine, en fait, le changement climatique va avoir des impacts, quelle que soit la carrière que vous allez choisir. Si on choisit de faire droit, il y a de plus en plus de procès qui sont faits sur la question de l'inaction climatique, donc c'est encore important de savoir de quoi ça parle. Si on travaille dans des professions médicales, le changement climatique va apporter un stress accru sur les populations. Et c'est important de savoir y faire face. Ça va aussi changer la façon dont les épidémies se propagent. Si on travaille dans le commerce, ça peut avoir un impact sur la façon dont on structure sa chaîne de valeur et quels approvisionnements on sélectionne, dans quelle mesure ma chaîne de valeur est vulnérable au changement climatique. Tous les jeunes ont intérêt à en savoir le plus possible sur le changement climatique pour l'intégrer dans leur carrière professionnelle.
Pour l'instant, on en est où dans les programmes, de l'existence de ces modules? C'est encore en cours de construction ou ça commence à émerger à droite à gauche?
Alors, on part pas de zéro, c'est insuffisant et il y a eu plusieurs personnalités, notamment Valérie Masson-Delmotte, qui est une grande climatologue et qui a vraiment demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus d'enseignements au collège sur les fondements du changement climatique, en demandant à ce que ce soit intégré dans le cursus fondamental. Il y a aussi une demande très intéressante qui émerge de la part des étudiants eux-mêmes. Une revendication des mouvements de jeunesse et notamment du manifeste pour un réveil écologique, c'était également d'intégrer davantage le changement climatique dans les programmes de beaucoup de formations de l'enseignement supérieur. Donc on voit qu'il y a à la fois une injonction de la part de la communauté scientifique qui trouve les programmes insuffisants, mais aussi une injonction qui vient des étudiants eux-mêmes en disant on n'est pas assez préparé et on n'est pas assez formé pour vraiment bien intégrer ces questions-là.
Il y a un grand absent dans le discours autour du climat et des discussions autour du climat, peut-être qu'on terminera par là, c'est le nucléaire. Moi j'ai grandi en ayant l'image du nucléaire comme étant un enjeu du combat écologiste, on va dire très clairement. Moi, j'étais élevé par des parents qui étaient écolos, militants écolos, et qui étaient très opposés au nucléaire, d'autant plus qu'ils étaient bretons, et que c'était une question assez sensible là-bas. On a construit une réflexion autour de l'écologie qui s'est beaucoup fait en opposition au nucléaire, et désormais j'ai la sensation que le nucléaire a disparu un peu du champ de réflexion. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce que les enjeux sont plus sur les énergies fossiles? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ?
Je ne dirais pas qu'on n'en parle pas. Je trouve qu'en France, quand même, ça continue d'être un sujet sensible et porté par beaucoup d'organisations écologistes. Et c'est encore plus vrai dans plusieurs pays qui ont fait le choix de se sortir du nucléaire, comme l'Allemagne et comme le Japon récemment, qui ont été très impressionnés par la catastrophe de Fukushima. Donc je ne dirais pas que le sujet a disparu des radars. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'avec le fait que la lutte contre le changement climatique impose de penser des énergies décarbonées et que le nucléaire est une énergie qui n'émet pas de gaz à effet de serre, on peut dire quelque part que c'est un bon argument marketing pour le nucléaire de se prévaloir de la lutte contre le changement climatique. Moi, je ne veux pas prendre position parce que je pense que ce que nous dit la science, c'est qu'effectivement, la priorité, c'est de sortir des énergies fossiles, de développer massivement les énergies renouvelables. La question du nucléaire, finalement, c'est un peu à chaque pays de décider qu'est-ce que c'est que sa trajectoire pour arriver collectivement à la neutralité carbone d'ici une trentaine d'années. Quelque part, les sociétés et les gouvernements au Japon et en Allemagne ont tranché d'un côté. En France, c'est vrai qu'on a historiquement une telle présence du nucléaire qu'on ne va pas en sortir du jour au lendemain. Et je ne pense pas que ce soit le plan aujourd'hui. Mais on voit que c'est une question très sensible et très difficile, même pour réduire la part de nucléaire. On a eu beaucoup de difficultés à faire avancer ça. C'est vraiment une question d'évaluation des risques et de profil de développement qui doit être choisi par le gouvernement en accord avec les citoyens. Donc, pour les associations qui pensent qu'on doit sortir du nucléaire et qui posent des questions, elles ont raison de poser ces questions d'enfouissement des GC, de coût total, et ça doit continuer à faire partie du débat public. On ne peut pas utiliser le climat pour complètement mettre fin à cette discussion-là, mais c'est vrai que au global, dans le monde entier, on peut imaginer que le nucléaire fasse partie de la solution. C'est à chaque pays de prendre ses responsabilités et de définir la trajectoire qui lui convient, c'est-à-dire qui convient aussi à ses citoyens.
Vous avez mentionné un élément très important, c'est ce que nous dit la science. On accorde encore assez peu de place, en tout cas peut-être pas suffisamment de place à ce que disent les scientifiques. Et on écoute encore assez peu les scientifiques. Là encore, il y a peut-être des choses à imaginer pour leur laisser plus de place dans le discours public et dans le débat global que nous avons tous ensemble sur le climat.
La place des scientifiques, elle s'articule en fait assez finement avec notamment les négociations internationales qu'on voit sur les questions climatiques, sur les questions de biodiversité, parce que c'est souvent dans ces instances-là que les États se réunissent et demandent aux scientifiques d'éclairer les choix que doit prendre la communauté internationale, qui ensuite impacte évidemment les choix qui sont pris au niveau national. Notamment un rapport absolument majeur qui est sorti en octobre 2018, c'était le rapport du GIEC sur comment limiter le réchauffement à 1,5 degré. 1,5 degré, c'est quelque part l'ambition maximale de l'action climatique. Et on voit que ce rapport, il a eu un effet très important de vraiment ancrer cet horizon de température comme le nouvel objectif, beaucoup plus peut-être qu'à l'époque de la signature de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Donc, la science, elle est là et elle parle très clairement. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il y a encore des États qui aient vraiment pris la mesure de ces injonctions. Collectivement, on n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais on voit que c'est en train de changer. La mobilisation citoyenne, notamment de la jeunesse, notamment des activistes comme Greta Thunberg, qui ont une plateforme médiatique absolument incroyable, en fait, une grosse partie du poids de ces mobilisations-là, c'est de dire, nous, on n'est pas des spécialistes, mais on vous répète ce que disent les scientifiques, et si on les prend au pied de la lettre, l'heure, elle est très grave, et l'urgence, elle fait qu'on ne doit pas tergiverser, et on doit complètement repenser les changements systémiques dont on parlait au début de ce programme. Il y a aussi quand même quelques États qui commencent à prendre au moins des engagements, qui commence quand même à se rapprocher de ce que le GIEC nous dit nécessaire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. On a une vingtaine d'États qui sont engagés pour la neutralité carbone, certains dès 2035 quand même pour la Finlande, et puis deux économies du G7, la France et le Royaume-Uni, qui ont aussi pris cet engagement de neutralité carbone pour 2050. Donc pour le moment, on est au stade des engagements, de l'ambition, c'est très important, et je pense que, à mon avis, c'est quand même assez lié à ce cri d'alerte qui a été lancé par les scientifiques. Maintenant, le gros enjeu, c'est effectivement la traduction de cette ambition dans des politiques concrètes, dans tous les secteurs, le transport, l'énergie, les bâtiments, l'agriculture. Les solutions manquent pas, mais voilà, maintenant, ça va demander de faire des choix parfois difficiles, mais qui ont beaucoup de bénéfices, pas seulement pour limiter le réchauffement climatique.
Et ces choix, ils sont d'autant plus urgents que non seulement la situation climatique ne va pas en s'améliorant, ça vous l'aurez constaté vous-même, mais qu'en plus, du côté des activistes, une forme de frustration monte et les mouvements pacifiques ont de plus en plus de mal à ne pas céder à la tentation d'actions radicales, voire violentes, pour faire entendre leur voix. On en avait notamment parlé dans un autre épisode récent avec les militants d'Extinction Rébellion. Et on compte bien d'ailleurs la saison prochaine poursuivre cette réflexion sur les modes d'action, en parallèle bien sûr à celle qu'on a déjà bien entamée sur la crise écologique. Merci à Lola Valéjo pour cet entretien réalisé par Quentin Bresson et Louise Petrouchka pour Programme B, qui est, comme vous le savez, un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, on parlera mobilisation.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.